C'est la toute dernière émission de la saison de M l'été et j'ai le plaisir de l'animer, mais je ne serai pas seul aujourd'hui puisque toute l'équipe de la prochaine saison, la saison automnale de Canal M, va se joindre avec moi en studio pour la fin de l'émission pour nous présenter la prochaine programmation et on a aussi plein d'autres invités à vous présenter aujourd'hui. Mais avant tout, bien, je vais en profiter pour lire quelques articles qui ont retenu notre attention à moi et à notre recherchiste Sylvie Rivard, que je salue d'ailleurs, hein, puisqu'elle a fait tout un travail pendant toute la saison, autant pour aller chercher des invités. À chaque jour de la semaine, elle a vraiment travaillé fort pour nous dénicher des petites perles, comme aujourd'hui. Puis également, ben, c'est elle qui s'occupait de fouiller tous les journaux pour nous trouver des articles dignes de mention, susceptibles de vous intéresser. Je la remercie et je la félicite pour son bon travail. Le premier texte, c'est tiré du Journal de Montréal. Un chien d'assistance refusé par une école, c'est de l'agence QMI. Une mère et la Fondation Mira dénoncent la façon de faire de la direction d'une école secondaire de Repentigny qui refuse le chien d'assistance d'une jeune autiste. L'école avance qu'une éducatrice et un élève auraient peur des chiens. Cassandra, 14 ans, présente un trouble du spectre de l'autisme, un déficit de l'attention et une déficience intellectuelle légère. Elle devait intégrer l'école avec son chien il y a environ une semaine et demie. Toutefois, au terme d'une rencontre d'environ 2 heures avec la direction, on a dit à la mère et aux 2 représentants de Mira que le chien ne pouvait pas être accepté dans l'établissement en raison de la peur d'une éducatrice spécialisée et d'un autre élève. Pendant cette rencontre, un psychoéducateur a également demandé aux parents de Cassandra pourquoi celle-ci ne prenait pas de médicaments, ce qui a grandement choqué les parents et le représentant de Mira. Il demandait à ce qu'on justifie pourquoi Cassandra bénéficie d'un chien, pourquoi on utilise ce moyen pour pallier ses difficultés au lieu d'un autre moyen comme des médicaments, explique Catherine Côté, psychoéducatrice à la Fondation Mira. Ils ont leur ami chien, s'ils sont moins seuls, ils font moins d'anxiété. Je veux ça pour ma fille, elle ne va pas très bien, de dire la mère de Cassandra, Isabelle Turgeon. Du côté de la commission scolaire des affluents, on se défend d'avoir refusé la présence du chien. Ce qu'on a expliqué à la mère, c'est qu'il y avait des personnes qui étaient indisposées par la présence du chien, qu'on était pour mettre des mesures en place, affirme Éric Ladouceur. Celui-ci n'était pas présent à la rencontre avec la famille de Cassandra, mais affirme que l'établissement souhaite seulement trouver une façon de faire qui conviendra à tous. On a demandé à la mère d'être patiente le temps qu'on mette les mesures en place pour autant satisfaire les gens qui étaient incommodés par la présence du chien que la jeune Cassandra. Depuis 2003, la Fondation Mira donne 100 de chiens chaque année pour accompagner les jeunes autistes. Il semble que cela aide grandement à diminuer leur niveau d'anxiété. Et bien, si on jette un coup d'œil du côté de la Commission des droits de la personne et de la Charte des droits et libertés, il y a un motif très précis, hein, qui interdit la discrimination liée au handicap ou encore la discrimination liée à un motif de pallier au handicap. J'ai de la difficulté ce matin, je bégaye. Donc, ce que ça veut dire... Excusez-moi, j'étais sur le bord de m'étouffer en toute honnêteté. Ce que ça signifie, alors que Mathieu rit, c'est un sujet sérieux, donc je vais reprendre mon sérieux, mais ce que ça signifie, en fait, c'est qu'on ne peut pas discriminer sur la base du handicap et encore pas le cas sur un moyen pour pallier au handicap, que ce soit une canne blanche, un fauteuil roulant ou encore l'utilisation d'un fameux chien Mira. Voilà, j'ai réussi. Maintenant, un article tiré de Radio-Canada alors que j'ai repris mon souffle. Le Canadien Patrick Jarvis est candidat à la présidence du Comité international paralympique. 4 candidats sont en lice et le vote a lieu vendredi. Patrick Jarvis est un ancien athlète de demi-fond qui a failli participer aux Jeux paralympiques de 88 à Séoul, en Corée du Sud. Mais il n'a pas été choisi et a appris plus tard que l'équipe avait été formée 6 mois avant les Jeux. Il a participé aux Jeux de 92 à Barcelone, mais sa colère face au manque de transparence avant les Jeux de 88 l'a incité à consacrer sa vie à servir le mouvement paralympique. Il a été pendant 6 ans président du Comité paralympique canadien. Cet homme de 59 ans, originaire de Calgary en Alberta, a décidé de poser sa candidature à la présidence du Comité international paralympique qui a dans ses rangs 160 comités nationaux. Ma stratégie est de passer au second tour de l'élection en profitant si possible du désistement d'un ou deux candidats, a dit Patrick Jarvis. Il a face à lui 3 candidats, le Brésilien Andrew Parsons, le Danois Jens Pettersson et le Chinois Eddie Zhang. Les 4 candidats ont fait leur présentation mercredi aux membres du CIP, réunis en congrès à Abu Dhabi. S'il avait été élu ou s'il est élu, Patrick Jarvis serait le 2e Canadien à diriger le CIP après Robert Stedward, qui l'avait dirigé de 1989 à 2001. Selon les chiffres du CIP, les Jeux paralympiques de Rio en 2016 ont été suivis dans 154 pays par 3,8 milliards de spectateurs. Et en terminant, des nouvelles de notre ancienne ministre canadienne des Sports et des Personnes handicapées, Carla Quattro. Un sympathique portrait dans la presse canadienne qui est également paru dans la presse. J'aurais pas le temps de vous lire le texte au complet puisqu'il est très long, mais si vous voulez, il est disponible en intégralité sur le site de lapresse.ca. Carla Quattro voulait faire du ski nautique et ce n'est certainement pas sa déficience visuelle qui allait l'en empêcher. La jeune femme avait alors trouvé le moyen d'atteindre son but. Lorsqu'il était temps de faire avancer le bateau, son père chantait. Et lorsqu'il était rendu à certaines parties de la chanson, elle savait qu'elle devait sauter, se lever et skier à la surface de l'eau. Il a fallu quelques essais avant que tout fonctionne, explique Anna Arkinga, directrice générale de la Delta Gymnastics Society en Colombie-Britannique, qui s'est fait raconter cette histoire par la ministre fédérale la première fois qu'elles se sont rencontrées. Madame Quattro n'était pas tracassée par sa malvoyance, se souvient la dame. Elle ne faisait que trouver un plan, comme celui du ski nautique, pour réaliser ce qu'elle souhaitait faire. Je crois que cela a vraiment influencé ce qu'elle est devenue, parce qu'elle n'a manifestement pas peur des gros défis. Carla Quattro a maintenant un nouveau défi devant elle. Après avoir été ministre des Sports et des Personnes handicapées, un choix naturel pour cette avocate aveugle au sens de la loi, la politicienne de 45 ans a obtenu un rôle encore plus grand au sein du cabinet, celui du ministère des Services publics et de l'apprivisionnement. Hey, mon Dieu, ça va vraiment, vraiment mal ce matin. Ce ministère important et complexe dont elle a pris la direction après la démission de la députée Judy Foote comprend de nombreux écueils, dont le fiasco du système de paye Phoenix et l'apprivisionnement militaire. Bon, j'ai réussi. Anne Merkingler, chef de la direction de l'organisation À nous le podium, a été impressionnée par le parcours de Mme Quattro au sein du ministère des Sports. Il s'agit, comme elle le dirait, de faire des longueurs, illustre-t-elle. Dans la communauté des personnes handicapées, les intervenants étaient ravis d'avoir, pour la première fois de leur histoire, une ministre complètement dévouée à la cause et l'une des leurs. Bonnie Brayton, directrice générale nationale du réseau d'action des femmes handicapées, se souvient de l'écoute dont la ministre avait fait preuve lors du débat sur l'aide médicale à mourir. Des gens qui vivaient avec un handicap avaient peur de subir des pressions. Nous étions dans une humeur sombre, inquiète de ce qui pourrait ensuite arriver, explique-t-elle. Et sa présence, son réconfort quand elle nous a dit qu'elle allait rester à nos côtés et qu'elle allait nous protéger, ont été importants pour nous. David Lepofsky, avocat et défenseur des personnes handicapées, s'est réjoui de voir Mme Quattro viséo lorsqu'il a été question de la loi sur l'accessibilité qui donnerait des directives aux banques, aux entreprises de télécommunications et à tous les lieux de compétences fédérales. Je vous rappelle que le texte au complet est disponible sur lapresse.ca si jamais vous voulez le lire intégralement. Ouais, merci. On est de retour en studio. Écoutez, ma collègue Sylvie, hein, toujours aux aguets, vient tout juste de m'envoyer un communiqué de presse. Je viens de vous lire un article concernant la possible nomination d'un Canadien à la tête du Comité international paralympique, Patrick Jarvis. Finalement, c'est pas lui qui a été élu, c'est le Brésilien Andrew Parsons qui a été élu lors de la 18e Assemblée générale du PIC. Il succède ainsi à Philip Craven, qui dirigeait l'organisation depuis 2001. Ben, félicitations quand même au Paralympien Patrick Jarvis. On passe maintenant à la première entrevue de la journée. Je suis bien content, on va parler d'un sujet important, celui des proches aidants. Et le président et directeur général du réseau Proches aidants, Mark Stolo, est avec nous en studio aujourd'hui. Bonjour, M. Stolo.
Bonjour.
Première chose, le réseau des proches aidants, il y en a une multitude en fait à travers le Québec. Vous travaillez pour la nationale, si on peut l'exprimer ainsi?
Oui, d'un certain sens. Le réseau aidant existe depuis 2004. Mm-hmm. On dessert toute la province. En fin de compte, notre mandat était toujours d'avancer, de conscientiser mieux les aidants, à mieux traverser cette expérience qui est très complexe. Alors, c'était toujours par des moyens de l'éducation. Alors, on gère des événements d'éducation sur des sujets extrêmement variés qui touchent la vie des aidants.
Parce qu'il y a probablement des gens qui nous écoutent en ce moment à la maison qui ne s'identifient pas eux-mêmes comme des proches aidants, mais qui, par définition, ils le sont. Parce que être proche aidant, en fait, c'est simplement de consacrer un certain nombre de temps à venir en aide à des gens, que ce soit dans son entourage immédiat ou dans sa famille, qui souffrent de maladies, par exemple.
Oui, la question de l'identité du proche aidant, c'est un sujet un peu particulier, mm-hmm. parce que souvent, comme vous le mentionnez, les membres de la famille s'identifient pas dans un rôle d'aidant. Mm-hmm. Mais être un aidant, c'est une tâche. Mm-hmm. La question de son identité est peut-être une deuxième question. Pour nous, on aperçoit n'importe qui, membre de la famille ou même un ami, qui soigne quelqu'un qui a une maladie ou chronique, ou une maladie qui est particulière, peut-être même à courte durée.
Ça peut aller autant du Parkinson, à l'Alzheimer, à peut-être quelqu'un
jusqu'à l'autisme.
Oui, ou à quelqu'un, que ce soit temporaire, comme vous le dites, qui se blesse à la cheville et qui pendant 6 mois, 8 mois, est à mobilité réduite. Par
Absolument.
Exemple.
C'est dans une situation où quelqu'un dépend sur toi pour le soigner. Mm-hmm. Ça passe à travers la vie.
Ouais.
En fin de compte, ça peut être un époux, ça peut être un grand-parent qui soigne un enfant. Alors, c'est extrêmement varié, les situations des aidants.
Et comme la définition est variable, on ne s'entend pas vraiment sur le nombre de chiffres. Moi, j'en ai trouvé plusieurs. Là, on dit que parmi ceux qui consacrent 20 heures de leur temps par semaine et plus pour soutenir un proche, il y aurait 188 000 personnes au Québec. Mais j'ai déjà rencontré Chloé Sainte-Marie, là, qui est la fondatrice des fameuses maisons Gilles-Carle, qui donne du répit aux proches aidants, qui, elle, disait « Au Québec, c'est plus d'un million de personnes qui est un proche aidant. » C'est quand même assez étonnant, le 1 million de personnes.
C'est un cas. Nous, selon les statistiques les plus récentes, il y a des statistiques qui vont sortir cette année sur le census canadien,
oui.
Mais au Québec, c'est un quart.
25% de la population?
Ouais, wow. 25% et c'est qu'ils sont connus. Mais comme tu le mentionnes, ils s'identifient pas souvent dans le rôle. Alors, les chiffres peuvent être un peu dans la zone grise. Mm-hmm. Au Canada, on parle de 8,1 millions de personnes. Et c'est un problème agrandissant parce qu'on parle d'une population qui vieillit. On parle du fait que les gens vivent plus longtemps, mm-hmm. mais avec des maladies chroniques. Et le fait que le système de santé, qui est déjà débordé, met de plus en plus la responsabilité sur les familles dans la communauté.
Alors, vous le sentez qu'il y a une espèce de désengagement de l'État qui donne un peu plus de responsabilité aux proches aidants?
Je pense que c'est une réaction à la réalité d'une demande de services qui augmente et que les budgets ne peuvent pas répondre
suivre
aux besoins.
Cadence, ouais.
C'est ça.
Mm-hmm.
Alors, même si ça fait un bout de temps que on sait. Au moyen, les aidants prennent autour de 75% de la responsabilité en gérant une maladie chronique.
Mm-hmm.
Ça veut dire que l'État prend autour de 20% de la responsabilité et autour de 5 à 10% n'est pas répondu.
Donc, qui tombe dans la course souvent d'un père, d'un proche, d'un frère. Puis souvent, ces personnes-là de la famille aident par compassion, aident par amour nécessairement. Mais reste que ça peut entraîner un certain épuisement, ça peut entraîner un stress incommensurable. Et vous, ben, vous venez en aide à ces personnes-là, vous essayez de leur offrir un maximum de soutien, d'informations possibles. Et à l'ère des technologies du 2.0, mm-hmm. un nouvel outil que vous voulez mettre en place, c'est un réseau social qui s'appelle Huddle. Est-ce que je le prononce bien tout d'abord?
Pas loin, on dit Huddle, mais Huddle. Comme tu veux, c'est appelé Huddle.
Mm-hmm.
Huddle, c'est vraiment la prochaine innovation dans notre mission.
Mm-hmm.
Et la vue de Huddle, c'est une vision extrêmement large. Mais l'idée, c'est de créer un écosystème de santé et de soutien pour les proches aidants qui offre de l'accès à des experts, de l'accès à des ressources publiques privées et aussi de l'accès à l'un à l'autre. Ça veut dire que les aidants peuvent se connecter, brancher l'un à l'autre. Alors,
c'est vraiment une plateforme web, un peu comme une espèce de Facebook pour proches aidants?
D'un certain sens, oui. Je dirais que ça rapproche un peu plus LinkedIn, mais pour les proches aidants. Alors, pour vous offrir une analogie, c'est peut-être un mélange de LinkedIn puis Match.com pour les proches aidants. Mais l'idée, c'est un environnement qui peut mieux orienter les aidants pour comprendre premièrement leurs besoins, pour répondre à leurs besoins et de les brancher dans un réseau de soutien entouré de leurs besoins. Alors, c'est vraiment un site répondeur. Dans le app lui-même, tu exprimes tes vouloirs, tu exprimes tes besoins et selon ces besoins, on adapte un réseau de support autour de toi.
Est-ce que vous pouvez me donner un exemple concret? Est-ce que, mettons, je me dresse un profil, moi, je consacre, mettons, 15 heures de mon temps par semaine à quelqu'un qui est en train de Parkinson, par exemple?
Oui. Je donne un exemple très concret. Oui. Disons que vous vous branchez sur Huddle. Premièrement, c'est important de comprendre qu'on met beaucoup de valeur sur l'anonyme. Alors, les gens peuvent brancher d'une façon anonyme, qu'ils soient un peu engênés ou qu'ils ne veulent pas être très ouverts.
Ouais.
Disons que j'ai un profil Parkinson et je demeure à Montréal. Et je prends soin de quelqu'un, mon père qui a le Parkinson.
Mm-hmm.
Dans ce cas-là, le système qu'on a bâti réagisse sur des algorithmes pour vous matcher, premièrement, à d'autres aidants dans une situation semblable, avec qui tu peux partager et apprendre, avec des experts ou de santé ou d'autres types d'experts.
Qui sont géolocalisés, on le devine.
Absolument.
En fait, le proche de la région de Montréal dans ce cas-ci.
Exactement. Et des ressources. Alors, par exemple, Parkinson Québec fait un partenaire de Huddle. Alors, si vous branchez sur Huddle et vous avez un profil d'aidant qui soigne quelqu'un avec le Parkinson, Parkinson Québec va faire partie de votre réseau. Alors, vous pourrez partager avec Parkinson Québec, ça veut dire demander des questions, interagir avec leurs experts.
Par écrit ou alors...
Par écrit, par messagerie, ou apprendre avec Parkinson parce qu'ils font beaucoup de partage d'informations courant sur la maladie, les traitements qui sont disponibles, les ressources qui sont disponibles. Alors, imagine-toi un écosystème certainement québécois et qui va être aussi à travers le Canada où on rassemble tous les aidants dans des situations extrêmement variées.
Mais qui a eu cette merveilleuse idée-là? C'est vraiment une très belle initiative, franchement.
Ben, c'est une évolution de tout le temps qu'on passe avec les aidants. On doit se rappeler que ça fait 13 ans qu'on travaille dans le domaine. On travaille avec les chercheurs clés, les cliniciens clés. C'était une vision qui était basée un peu sur la commerce de partage.
Ouais.
Que de plus en plus, on se penche l'un à l'autre pour comprendre l'expérience de la vie. C'est sûr qu'on va à Facebook pour se connecter avec nos amis.
On ne va pas nécessairement partager notre intimité sur Facebook. Donc, ça lui permet de trouver une alternative.
Oui, et Facebook n'est pas là pour répondre aux besoins des aidants. Alors, d'avoir un réseau social dévoué particulièrement à cette expérience, pour nous, c'était important et on le voyait comme un vide. Il y a des réseaux de sociaux de santé qui sont vraiment sur les patients, pour les patients. Mais un réseau pour les aidants n'existait pas. Alors, la vision de Huddle, c'était vraiment de créer un environnement qui se dit, si vous êtes aidant, on met la valeur sur votre expérience.
Ouais.
On dit que vous avez une expertise, une compétence, une connaissance qu'on veut que vous partagez, mais aussi on amène les experts, on amène les ressources vers vous.
Ce sera lancé donc le 18 septembre
prochain. Le 18 septembre.
Marc Stolo, président, directeur général du réseau Proche Aidant. Merci beaucoup d'être venu nous présenter l'état de la situation et cette technologie qui va certainement venir en aide aux quelques 25% de la population québécoise. On vous souhaite beaucoup de succès.
Merci.
En terminant, sur quel site on peut se rendre pour avoir plus d'informations sur Huddle?
Alors, pour pré-enregistrer avant le 18, c'est huddle.com, huddol.com. Et le 18, tu peux brancher directement sur la plateforme.
Merci beaucoup. On s'en va maintenant en musique, puis on sera de retour après la pause. And Basin Street, here's a street where all the boys and the good folks meet down in New Orleans, in the land of dreams. And you never know how nice it seems and just how much it really means. La, 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 dear to me. Yes, sirree, dear to me, yes, sirree, can't you see, baby, I can't lose those good old Basin Street blues. Quand je vous disais en début d'émission que notre équipe de recherche et Sylvie, principalement, qui est notre recherchiste, avait un don pour trouver des petites perles et des belles histoires, ben, notre prochaine invitée est un bel exemple. C'est ma docteure Marie-Josée Dubois, omnipraticienne et instigatrice du projet Gioia. Aujourd'hui, c'est la journée où j'ai un peu de la difficulté à prononcer, je pense, les noms des projets. Donc, ça va être ça ma première question. Docteur Dubois, est-ce que je le prononce bien, Gioia?
Oui, bonjour. Oui, tout à fait. Vous le prononcez très bien. Gioia, c'est le nom italien, le mot italien pour la joie.
Pour la joie, bon.
Oui,
bon.
C'est ça.
Vous avez, Marie-Josée Dubois, un parcours un peu banal qui vous a conduit à ouvrir ce centre qui, tu sais, pour l'instant, qui est encore itinérant, mais qui aura prochainement son propre site dès que le financement sera bouclé. Vous avez travaillé pour la Fondation Le Phare. Vous travaillez depuis longtemps, en fait, avec les enfants qui ont des maladies rares et orphelines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi la définition des enfants avec une maladie rare ou orpheline?
Ce sont des maladies, comme ça le décrit, qui sont extrêmement rares. Donc, il y en a très peu dans chaque catégorie. Disons, par exemple, au Québec et dans les enfants qui font partie des enfants de Gioia, on connaît seulement trois personnes au monde ou à travers les États-Unis et le Canada au complet qui portent cette maladie-là. Alors, il y a très, très peu de recherches qui se font. Il y en a un peu, mais quand même, il y a très peu d'argent qui est dédié à ces recherches-là, très peu de traitements et de soins également.
Oui.
Alors, les enfants et leurs familles sont très isolés avec ce qu'ils vivent.
On comprend tout à fait l'effet d'entraînement que cela, ça provoque, parce que s'il y a peu de gens qui sont victimes de ces maladies-là, ben, vous l'avez dit, il y a moins de recherches, mais on peut aussi supposer qu'il y a moins de soutien, de répit qui sont offerts aux familles dont l'un des membres est atteint d'une maladie rare. On dit que c'est une personne sur 2000 au moins pour qu'on qualifie une maladie de rare ou d'orpheline. Et vous, avec le projet que vous avez mis en place, en fait, vous voulez mettre en connexion ces enfants avec la nature.
Oui, c'est ça, tout à fait. C'est ce qu'on fait déjà depuis 2 ans maintenant avec les activités itinérantes que l'on fait. Oui, la reconnexion avec la nature est au cœur de notre projet parce que j'ai pu observer de mes yeux, j'ai pu l'expérimenter moi-même, mais on sait combien la nature est bienfaitrice pour chacun d'entre nous, mais en particulier pour les enfants, ces enfants et leurs familles qui ont passé beaucoup de temps dans les hôpitaux, qui sont souvent très, très laissés à eux-mêmes, comme vous dites. Alors, la nature est en elle-même un lieu de paix où est-ce qu'on peut revivre de l'insouciance, réinsuffler des espaces de joie, de beauté, d'harmonie, et où les cycles de la nature se correspondent aussi à des cycles intérieurs que chacun vit à travers ces moments qui sont parfois très difficiles. Mais il y a aussi beaucoup de beauté et de joie possible à vivre. Mais il faut donner un soutien particulier pour ça, puis donner les moyens qu'il faut. Alors, le centre est dans la nature pour permettre toutes ces formes d'expériences qui se retrouvent naturellement là, autour de nous.
Et vous offrez des activités toutes les 6 semaines. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'activités qui ont été organisées pour ces enfants et ces jeunes?
Oui, tout à fait. Alors, l'une de celles que l'on fait le plus régulièrement, c'est dans une ferme, la ferme Bee à Ayerscliff, qui est prêtée par une grande amie à nous, Brigitte. Alors, on a fait nos propres semis au printemps avec l'aide du CRIFA Aquatico. Et puis là, ben, on fait des récoltes, on a fait nos semis, ensuite on a planté nos petits plants. Puis là, on est en train de faire nos récoltes. Alors, on fait des activités à même la nature parmi nos jardins biologiques. On mange ce qu'on récolte. Et la dernière activité était très, très belle. On a eu la chance d'avoir un apiculteur qui est venu nous expliquer la vie d'une ruche, la vie des abeilles, et toute l'inspiration magnifique. Alors, tout le monde était sous le charme. On est allé, on était vraiment complètement enchantés par cette activité. On a fait notre propre beurre avec des fines herbes de notre jardin cette fois-là aussi. Alors, c'est vraiment des activités comme ça. Il y a les animaux qui sont toujours très présents pour nous. On a un programme de zoothérapie complet qu'on est en train de mettre sur pied. Et chez Brigitte à la ferme, il y a des chevaux, des lapins, des poules, des chats, des chiens. Alors, les enfants sont très enchantés. Souvent, bien des enfants n'ont jamais même vu pousser une carotte ou on passait beaucoup de temps malheureusement dans les hôpitaux. Alors, c'est vraiment un moment très privilégié pour les familles, tout
très libérateur, on le devine
oui,
aussi. Là.
C'est ça.
Parce que même pour, je veux dire, même pour un enfant qui n'a pas de visite régulière à l'hôpital, les opportunités que vous leur offrez de voir l'écosystème, de voir une ruche, d'aller à la ferme, ben souvent, c'est des occasions qui ne se présentent même pas pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, on devine que pour ces enfants-là, c'est vraiment une opportunité tout à fait formidable à saisir.
Oui, exactement. Ça crée vraiment des moments magiques et puis on est tous, on se sent tous très choyés de vivre ça avec nos familles. Alors oui, tout à fait, c'est exactement comme vous dites, on est chanceux et les enfants l'apprécient énormément. Les familles aussi, ce sont des moments de grâce vraiment, où est-ce qu'on peut se retrouver tous ensemble dans un autre espace. Alors les familles, même si elles sont, si elles ont du chemin à faire pour venir chez nous, parce qu'on en a de partout. Nos activités sont surtout en Estrie, mais on a des familles de la région de Montréal, de la Rive-Sud, de Drummondville, de Sherbrooke. Alors, c'est ça, les gens sont contents de quitter ce qu'ils ont de soucis, souvent à la maison, de se retrouver dans un autre environnement et de se relier hein, beaucoup les uns les autres aussi. C'est aussi le propos d'offrir un espace à l'enfant lui-même et on offre autant des activités spécifique pour la fratrie, pour les parents, pour les grands-parents, pour que chaque fraction de la famille puisse bénéficier d'un espace privilégié parce qu'ils sont il y a souvent des grands oubliés là-dedans et puis les conséquences à long terme sont quand même souvent tristes et dévastatrices. Alors on essaie de prendre soin de vraiment l'ensemble de la constellation familiale.
Donc, merci beaucoup, Dr. Marie-Josée Dubois, instigatrice du projet Gioia, lesenfantsgioia.com. On va mettre le lien sur visevoix.com si on veut s'inscrire à ces activités gratuites. Merci beaucoup, Dr. Dubois.
Un immense merci à vous. Bonne journée.
Bonne journée. On sera de retour, nous, dans un instant pour la suite de M l'été. Ça grouille déjà un petit peu en studio également dans la régie. Je vois que Clotilde Seille est déjà arrivée pour son bloc d'entrevue un petit peu plus tard. Je vous rappelle qu'en fin d'émission, on va recevoir toute la grande famille de Canal M pour parler de la programmation qui s'en vient à l'automne. Mais dans un instant, on s'entretient avec Catherine Blanchette-Dallaire, fondatrice de On Roule. Catherine, bonjour.
Bonjour.
Content de te retrouver. Je vais te tutoyer là, parce que ça sonnerait faux dans ma bouche si je vous voyais, Madame Dallaire. Donc, je vais te tutoyer puisqu'on est des amis. Un petit rappel aujourd'hui en studio pour nous rappeler en fait l'existence de la plateforme On Roule et faire une mise à jour de l'organisme où il en est rendu. Est-ce que vous avez eu un été chargé chez On Roule?
Bien, en fait, on est, restructuration, c'est pas le bon mot. C'est plus développement accéléré complexe. Parce que, j'explique, on est en train de faire un nouveau site web et une nouvelle application mobile. Et là, de jumeler les deux, de voir comment on peut intégrer ces technologies-là ensemble, qu'elles soient accessibles aussi. Donc, on fait des tests utilisateurs et tout. Il y a beaucoup de choses de ce côté-là. Là. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est un gros chantier. Là,
Vous êtes en train de passer à la prochaine étape, en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, On Roule, c'est une espèce de catalogue où on répertorie l'ensemble des commerces qui sont soit accessibles ou partiellement accessibles aux personnes en fauteuil roulant.
Oui, puis c'est bien de spécifier accessible ou partiellement accessible parce que, bon, moi, j'ai développé On Roule suite à un accident où je me suis retrouvée en fauteuil roulant. Mm-hmm. Et j'ai été chanceuse, j'étais en fauteuil, mais j'avais quand même une bonne mobilité.
Ouais.
Donc, pour moi, le niveau d'accessibilité dont j'avais besoin était beaucoup moins important que d'autres personnes.
Tout à fait.
Donc, On Roule répertorie les lieux, l'accessibilité des lieux, mais on fait un état des lieux, on dit voici ce qu'il y a. Puis à ce moment-là, partiellement accessible, pleinement accessible. Puis après, on laisse la personne le choix de décider si ça lui convient ou pas, en fait. Là.
Parce que, tu sais, le terme accessible ou la certification accessible, ça ne sera jamais une définition sur laquelle on pourra tous s'entendre. Parce que, par exemple, pour moi, une personne avec un fauteuil roulant manuel, traverser une mini-marche de quelques centimètres, ça peut se faire sans trop de troubles. Quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant ou un triporteur, ben là, ça peut vraiment devenir problématique. On peut aussi penser à la largeur des portes, les toilettes, si elles sont accessibles aussi. Donc, c'est pour ça que vous avez instauré le label partiellement accessible où vous spécifiez un peu, en fait, qu'est-ce qui est accessible dans le commerce.
Bien, en fait, c'est drôle que tu amènes ce point-là, en fait, parce que c'est quelque chose que je défends depuis les débuts d'On Roule, comme quoi, en fait, l'accessibilité, la réelle accessibilité d'un lieu dépend d'une personne à l'autre. Elle ne peut pas être cataloguée, casée.
C'est ça, tout à fait.
Et puis, aussi, depuis quelques mois, j'ai commencé à donner des conférences sur le thème que j'appelle l'accessibilité humaine, parce qu'on parle beaucoup d'accessibilité universelle qui est excellente, donc qui est l'amélioration des normes, l'éducation, la sensibilisation, tout ça, donc bâtir plus accessible. Mais l'accessibilité humaine, c'est ce soir à 5 heures, quand je sors d'ici du studio, quelle accessibilité je frappe? Et ça, ça change en fonction de plusieurs critères. Deux personnes qui ont deux handicaps différents, comme tu venais de le mentionner, ne verront pas l'accessibilité du même lieu de la même façon.
Ben ouais.
Ensuite, la même personne, comme tu le spécifiais aussi, qui ont différents aides à la mobilité, donc fauteuil manuel, sportif, triporteur, cette même personne-là, avec le même handicap, va encore voir l'accessibilité d'un même lieu différemment.
Ben oui. Puis le meilleur exemple, ou moi, l'exemple que je donne souvent pour expliquer que l'accessibilité universelle, comme tu viens de le dire, c'est bien parce que ça met des normes, puis on espère que ça va imposer des standards, mais c'est un peu une espèce d'idéal qu'on ne pourra jamais atteindre parce que, prenons l'exemple d'une salle de bain, certaines personnes qui sont de petite taille préfèrent avoir la cuvette plus basse, hein, parce que c'est plus facile pour elles. Et d'autres personnes qui sont sur un triporteur pour faire leur transfert, ben, elles préfèrent que la cuvette soit plus haute pour qu'elle soit à hauteur pour pouvoir transférer d'un siège à l'autre. Mais là, après ça, si on veut avoir une cuvette qui est ajustable et modulable, à un moment donné, on va frapper un mur en termes de qu'est-ce qui est vraiment accessible universellement. C'est pour ça qu'il y a toujours une espèce de part d'ajustement qu'on doit mettre, je pense, pour vraiment savoir si c'est accessible ou non.
Bien, en fait, puis ça, c'est drôle parce que le concept de la cuvette, moi, j'ai eu le problème. Là, j'essaie de faire mes critères pour On Roule, puis là, on me disait, ça prend le siège surélevé. Puis là, après ça, il y a des gens qui me disaient, oui, mais moi, je suis pas capable. Là, je suis comme, ah, qu'est-ce que je fais? Mais pour moi, l'aspect fondamental d'accessibilité, c'est l'accès à l'information. Parce qu'on dit souvent que Montréal n'est pas accessible, on dit souvent que Montréal, c'est ci, c'est ça. Puis pour moi, Montréal est beaucoup plus accessible qu'on pense, mais on ne sait pas. On ne sait pas où, on ne sait pas comment, on ne sait pas à quel point. Donc, les gens ne peuvent pas accéder aux lieux qui pourraient être accessibles pour eux et non accessibles pour d'autres. Fait que je pense que le point majeur est oui, l'accessibilité universelle, oui, la sensibilisation, oui, la modification du code, oui à tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire ce soir 5 heures? Ben, c'est déjà de commencer à diffuser l'information sur ce qu'il y a pour qu'on puisse mieux l'utiliser.
Donc, pour simplifier la vie à court terme, c'est un peu ça aussi que vous voulez faire. Travailler sur le long terme pour rendre plus accessibles les bâtiments, mais également proposer des solutions pour les gens qui veulent pouvoir aller dans une boulangerie demain matin si tu cherches un croissant.
Je dirais que c'est comme deux espaces-temps. Tu as un espace-temps long terme qui est l'accessibilité universelle, puis tu as l'espace-temps tonight, ce soir, 5 heures, j'ai envie de pisser.
Ouais, ouais.
Et là, ça, c'est de l'accessibilité humaine. Parce que tu rajoutes même qu'est-ce qui est maladie chronique. Une personne va rentrer dans un restaurant qui est accessible pour elle, mange quelque chose qui ne fit pas, les douleurs chroniques rentrent, elle va avoir beaucoup plus de misère à sortir que quand elle est rentrée. Fait que pour moi, l'accessibilité réelle d'un lieu varie d'un moment à un autre, varie d'une personne à un autre, varie trop.
C'est un concept à géométrie variable.
On retourne aux mathématiques, exactement, oui.
Mais vous travaillez donc sur les deux tableaux de ce qu'on comprend. Est-ce que, là, en ce moment, vous travaillez à répertorier les commerces accessibles à Montréal? Est-ce que vous faites également de la représentation pour inciter les commerces non accessibles à le devenir?
Ça, je laisse ça aux organismes qui sont beaucoup plus expérimentés que moi, qui ont plus de ressources, qui ont plus de connaissances et que c'est leur mission. Moi, ma mission, c'est d'informer les gens, tout simplement, de promouvoir le positif et de le faire connaître.
Est-ce que vous relayez les informations entre vous et, par exemple, un organisme comme J'accède Québec qui offre des rampes d'accès gratuitement pour rendre accessibles des commerces? Est-ce que dans ce cas-là, vous allez obtenir l'information de J'accède Québec pour rajouter la mention sur votre site Internet?
Ben en fait, moi, ça fait plusieurs fois que je les y avait accès aussi. Donc, ces organismes-là, je leur dis, ben, tu sais, du moment que vous donnez la rampe, inscrivez-le sur un rôle. C'est sûr que nous, on ne peut pas toujours passer derrière pour inscrire tout derrière. Là, mm-hmm. À un moment donné, on a une vie aussi.
C'est participatif.
Mais c'est participatif. Et c'est ça le but, c'est que chacun fasse son petit input, rajoute les données. Alors, tous les organismes qui contribuent à l'amélioration de l'accessibilité comme ça sont invités à inscrire les données ensuite sur le site, évidemment. Là.
Donc, moi, n'importe où, là, si tu me rends quelque part dans un bar au quartier latin, je réalise ça. Ben oui, le Saint-Boc, en fait, c'est accessible sur la rue Saint-Denis parce qu'il y a une toilette qu'on peut utiliser, celle du personnel. Je peux me rendre sur le site puis ajouter moi-même les informations qui vont se mettre à jour?
Pas pour le moment, mais c'est le but du nouveau site.
Okay.
C'est le nouveau du nouveau projet, c'est que les gens puissent vraiment ajouter de l'information et à la couleur de chacun. Donc, que toi, tu puisses indiquer l'accessibilité du Saint-Boc selon ta vision.
Mm-hmm.
Que quelqu'un d'autre va dire, OK, oui, mais moi, j'avais vu telle affaire. Ah, moi, j'avais,
tu sais. Mm-hmm, ouais.
Donc, ça fait une espèce de trip advisor.
Oui, c'est ça, ou Yelp, qu'on peut aussi comparer, là. OK.
Là, c'est les usagers qui mettent leurs commentaires, puis après ça, ben toi, tu finis par dire, ah, ben lui, OK, lui, il a genre... Même type de problématique que moi, c'est-à-dire que si lui dit que c'est accessible, ben je vais probablement pouvoir y aller.
Mm-hmm.
Puis là, après ça, si tu regardes, lui est en fauteuil mécanique, toi, tu es en fauteuil manuel, mais tu te dis, ben lui, il passe pas, mais moi, je vais probablement passer.
Mm-hmm.
Donc, ça permet aussi de relativiser chacune des choses.
Mm-hmm.
Là, ben on devient vraiment, qu'est-ce que moi, j'ai besoin, qu'est-ce que je lis, qu'est-ce qui est accessible pour moi, et non pas pour la personne d'à côté, là.
On parlait de votre été chaud, chez On Roule, vous travaillez à continuer là, la progression de l'existence de l'organisme, et il y a entre autres l'idée d'une application mobile également.
Oui, parce que maintenant, avec toute la géolocalisation, c'est plus facile aussi pour certaines personnes, certaines déficiences physiques, d'utiliser un mobile qu'un ordinateur.
Mm-hmm.
Puis le réflexe aussi, c'est que quand tu es dehors, tu sors ton téléphone, tu sors pas nécessairement ton ordinateur.
Mm-hmm.
Donc, le but, c'est de le rendre le plus mobile possible, en fait.
Et je sais que vous avez également d'autres projets qui s'en viennent dans les prochains mois pour On Roule. J'ai bien hâte d'en entendre parler. Beaucoup de travail sur la planche, donc, pour les prochains mois. Merci beaucoup, Catherine, d'être venue en studio aujourd'hui nous faire une petite mise à jour de l'organisme. On vous souhaite beaucoup de succès dans les prochaines semaines, prochains mois. Puis on rappelle le site internet onroule.org.
Merci.
On s'en va maintenant en musique. Et après la pause, ben c'est la conclusion. C'est le dernier segment de l'été de M l'été. J'ai eu beaucoup de plaisir à animer les vendredis des dernières semaines. Et on va retrouver des voix que vous connaissez prochainement. Hélène Denis, Clotilde Seil, Benoît Racette, qui seront... J'espère que j'en oublie pas, mais je pense que j'en oublie pas, qui seront avec nous en studio dans un instant.
Las panteras, agujero en el bolsillo, refrigera un calmante recetado. El estado cierra su ventana y a dormir. La mesa servida, la tele prendida, los espectadores se olvidan de brindar una vez más. Pura sangre, pure blood. Hecho que arde paz. Pura sangre. Aquella rata, pero cómo echarla. Desesperados círculos sangrientos por la cocina fueron su última obra. Ay, perdón, rata. Sí, lo sentimos de verdad. Es que
somos
pura sangre, pure blood. Hecho de arrepaz, pura sangre, pure blood. Vas a violar el candado,
La virtud del cazador siempre será tu defecto el mejor. Ya hacer en la alfombra si hay que dar de cama. La carne cruda vas a probar una vez más. La libertad vas a probar. Es que somos pura sangre. Viva bla. Sangre, pure blood.
I'm going.
Pura sangre, pure blood. Pura sangre.
Kevin Breton, toujours au micro de M l'été. Il y a beaucoup, beaucoup de monde en studio en ce moment. On teste même le Facebook Live. Donc, je salue les gens qui nous écoutent en direct sur Facebook. J'aurais peut-être dû mettre une chemise. Quand je dis qu'il y a beaucoup de monde en studio, c'est qu'il y a Hélène Denis qui est de retour en studio. Bonjour, Hélène.
C'est très beau comme ça.
Merci,
Kevin. Bonjour.
C'est gentil de me décomplexer. Je peux peut-être faire une vidéo description pour les personnes non-voyantes qui nous écoutent peut-être sur Facebook. Mais j'ai un simple t-shirt bleu rayé. Également,
très
mes côtés.
Chayon.
Également en bleu, Clotilde Seille.
Oui,
bonjour.
Oui, bah, oui, bonjour Kevin.
Ça va bien.
J'aurais su, j'aurais fait mon petit brochet.
Au bout du fil, lui, bah, l'image, ça ne lui dérangera pas parce qu'il est par téléphone, c'est Benoît Racette.
Ah, oui.
Mais c'est dommage parce que pour le connaître, c'est toujours la personne la plus chic à chaque fois.
Oh,
Benoît,
c'est vrai, hein?
Il est toujours bien peigné, dépeigné, mais bien peigné en même temps. Là, c'est son style. Bonjour Benoît Racette.
Bonjour. Mais à l'époque où j'étais invité, il n'a jamais ça. C'est depuis que.
Ah, on vous
de...
perd.
Oui, oui, oui. Vous voulez. C'est comme ça.
Ben, bon. On vous a perdu, on n'a rien compris de ce que vous avez dit.
Ah, bon, pour voilà. Vous m'entendez mal.
Mais là, on vous entend. Là, on vous entend, Benoît. On vous a retrouvé.
Bon. Alors, comme je le disais, merci. Ben, en fait, je vais l'ajouter, là. Merci des compliments. Mais je suis sûr que vous êtes très beau. Je ne vous vois pas encore, mais je suis persuadé que vous êtes beau.
Bon, ben, si j'ai invité tous mes collègues ici en ce moment, c'est pas juste pour qu'on se dise qu'on est beau l'un
non.
et l'autre.
Non.
C'est
pour
nous parler
on va
de la,
ça.
Prochaine, la prochaine programmation de M l'été. Donc, quand je de M l'été, je vous dis, en fait, l'émission termine aujourd'hui. M l'été, la prochaine programmation de Canal M commence la semaine prochaine. Quelques nouveautés. J'ai le goût de commencer avec vous, Clotilde,
oui.
Pour nous parler des livres Prends les oreilles, notamment,
oui.
Qui revient avec de nouveaux invités.
Oui, de nouveaux invités. Puis je dois dire que ça va commencer. C'est vraiment fort, cher Kevin et vous toutes et vous tous là, qui nous écoutez. On a enregistré hier la première émission qui sera un spécial Festival international de la littérature, un spécial fil et un spécial sur la soirée qui va avoir lieu au Noir.
Ouais.
Dégustation gustative, mais aussi on va s'en mettre plein les oreilles des textes parce qu'il y aura lecture de textes.
Par les auteurs ou...
Par des lecteurs bénévoles.
Par des lecteurs bénévoles.
Et donc hier, j'avais une brochette de monde ici. Et quand je dis que la lecture à haute voix, moi, pour moi, je mets ça... pour moi, c'est un art. Hein. Eh bien, hier, jugez-en par vous-même, j'avais deux anciennes voix radio-canadiennes du temps de la chaîne culturelle et d'Espace Musique.
Lesquelles?
Michel Keble et Gilles Dupuis. Il y avait aussi Sylvie Drapeau.
Oh, l'actrice.
L'actrice. Il y avait Béatrice Picard. Il y avait... Enfin bon, alors que du monde qui savent lire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça a été un moment, je crois. Hein, Mathieu était là hier. Non, vraiment, ne ratez pas ça. Ça, c'est l'émission du 14 septembre.
Pas manquer l'émission du 14 septembre également. Pas manquer cette soirée qui va se dérouler dans le Noir. Est-ce que tu as déjà participé à une soirée dégustation dans le Noir?
Jamais. Jamais, non? Parce que je pense que la claustro que je suis... Il y aurait du mal. Vous, les non?
Non, jamais.
Mais
moi,
si j'avais un conseil à donner, il paraît qu'il ne faut pas porter de vêtements blancs ou de vêtements qu'on souhaite conserver parce que c'est assez susceptible de se tacher. Semble-t-il qu'à la fin de la soirée, quand on ouvre les lumières, bon, ben, il y a du vin partout et sur les chemises et sur les nappes des tables. Mais il paraît que c'est bien plaisant, bien agréable et que ça éveille d'autres sens.
Oui,
en fait,
c'est ça.
C'est assez, au début, traumatisant de prendre une première bouchée de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on ne voit pas. Mais après, après, ben, on, ça
mais
nous
là,
permet...
ils auront choisi.
Oui, on sait déjà ce qu'on va...
Pour cette soirée-là, oui, parce que déjà qu'ils sont dans le noir, déjà qu'ils vont entendre des mots, des textes lus par... des voix comme ça qui vont arriver exactement. Wow. Vous savez, comme un aveugle, hein? Mm-hmm. Une personne non-voyante qui lit et qui écoute, ben, tout d'un coup, il y a une voix qui lui arrive dans les oreilles. C'est la même expérience qu'on leur propose le 25 septembre.
Sinon, est-ce qu'il y a d'autres émissions à mettre pour des livres près les oreilles dans la, pour la rentrée?
Celle d'après, le 21, avec Antonine Maillet. Qui sera en studio.
La Sagouine?
Oui, elle-même. Elle-même.
Oh, j'aurais jamais cru.
Moi, j'oserais pas. Imitation. Il va y avoir un spécial jeunesse. Il va y avoir, en tout cas, je ne veux pas prendre trop de temps à mes petits camarades.
Mais on va mettre sur visezvoix.com la liste des invités qui sont déjà confirmés.
Oui. J'aurais même Danielle Ouimet aussi, vous savez, la pulpeuse.
Oui,
quand elle était jeune. Oui, mais c'est ça, parce qu'il en faut pour tous les genres et pour tous les goûts.
À mettre à l'agenda des livres plein les oreilles. De retour avec Clotilde Seil. Je passe maintenant peut-être à Benoît Racette. Benoît, de retour à l'animation de Accès Libre à l'automne. J'ai très hâte de vous réécouter. C'était mon rendez-vous hebdomadaire que je ne manquais pas l'année dernière.
C'est trop flatteur. En fait, Accès Libre aujourd'hui est un peu sur la route. Veuillez m'excuser, je suis à l'extérieur, mais je serais content de reprendre la barre de l'émission. Vous le savez, on rencontre des décideurs, des décideuses, des militants, des militantes qui vont défendre les droits de tous et toutes et l'accessibilité. On continue avec ça, mais on va avoir quelques nouveautés cette année. Est-ce que vous avez envie d'en entendre parler?
Oui, oui, Benoît.
Oui.
Bon. OK, merci de votre enthousiasme. En fait...
C'est vrai. C'est parce que j'avais la bouche pleine. C'est pour ça que j'ai pas pu dire oui, mais sinon, j'aurais dit oui.
Vous mangez des canapés, c'est ça?
Ouais, je manque tout ça, Benoît.
Donc, en fait, comme vous le savez, il y a des sujets d'actualité en début d'émission. Bon, juste pour vous dire au passage, la ministre des aînés et contre la maltraitance, Mme Francine Charbonneau sera des nôtres à la toute première émission. Mmh. Il y a aussi un spécial élection qui s'en vient en présence de Monique Vallée et aussi la chef de l'opposition qui brigue la mairie, Valérie Plante.
Oui, ça va être un automne chaud à Montréal et dans toutes les municipalités. Là.
Voilà, exactement. Et on va bien sûr parler de l'accessibilité au travers des municipalités, parce que, bon, les élections, c'est pour tout le monde. Ceci dit, j'aimerais attirer votre attention parce qu'un des plaisirs à l'émission, ce sont les chroniqueurs. On en retrouve toute une gang et des nouveaux aussi. Je voulais seulement les annoncer, ou plutôt des gens qui proposent des choses nouvelles. Donc, entre autres, Franck Bouchard, que vous avez beaucoup apprécié sur les questions du travail, nous propose maintenant une chronique sur l'habitation. Et on a même une nouvelle, une sexologue spécialisée pour les personnes âgées en situation de handicap, Sonia Boucher, qui va venir une fois de temps en temps. C'est pas vrai, ça, non?
Clotilde me fait des signes. Je ne sais pas si c'est la partie sexualité
non,
ou
c'est
âgée.
La partie personnes âgées.
OK, d'accord. Bon.
Au large, mais on revient à l'organisation. Puis je vais faire de jeu de mots. Là. Mais donc, on proposait aussi toujours un segment qui s'adressait aux organismes communautaires qui nous écoutent. Et on a parlé de financement, de philanthropie. Maintenant, on va parler de tout ce qui est important dans une organisation. Oui. Comment on gère, recrute son CA, comment on mobilise, comment on évalue les résultats. Le Centre de formation populaire vient nous aider pour ce faire. Et il y a le retour de Laurent Trépied. Ah! C'est parce que je suis en présence. Parce que je suis en présence de Clotilde que je ne suis pas capable de le dire.
J'ai jamais été capable de le dire non plus, Laurent. Mon petit Benoît.
Donc, Laurent Trépied-Capistran, chronique juridique.
D'Execo.
Voilà.
Ouais, ouais.
Et il y aura des tables rondes aussi, des gens qui vont venir un peu plus en profondeur parler de thèmes chers aux personnes qui nous écoutent. Mm-hmm. Et je ne veux pas oublier non plus ces moments à la fin de l'émission où on entend soit de l'info sur les sports ou en fait des rencontres de personnes extraordinaires. On va rencontrer d'ailleurs des personnes aveugles qui ont de nombreuses réalisations, qui comptent sur de nombreuses réalisations, qui inspirent. Donc, on est proche de ce qu'on était avec des belles nouveautés.
Et quel sujet sera abordé avec la ministre, Benoît?
Bien, évidemment, c'est le plan qui a déjà été déposé en juin contre la maltraitance faite aux aînés. Je vais en profiter, évidemment, pour parler des personnes vulnérables de manière générale. Pour mieux comprendre l'étendue de la situation, la QDR vient aussi avec sa porte-parole principale. Donc, vous me connaissez, j'invite bien sûr un décideur, mais il ne faut jamais oublier les militants, militantes ou défenseurs pour parler des thèmes. Alors, ça, c'est le premier thème de l'émission, oui.
Ouais, c'est surtout la force, je pense, d'Accès Libre de donner la voix aux militants qu'on entend peut-être moins dans les médias. C'est à suivre, donc, Accès Libre de retour à l'automne. Merci beaucoup, Benoît.
C'est un plaisir.
Salut, Benoît.
Puis, je me tourne maintenant du côté d'Hélène Denis. Hélène, vous allez de retour au micro de Canal M à l'automne.
Oui, moi, je suis la petite nouvelle. Hein?
Oui, c'est ça.
Oui, nouveau défi. Alors, j'anime déjà les voies de service quotidiens du lundi au vendredi. Tous les jours de la semaine, je lis des articles, des chroniques, des éditoriaux tirés des quotidiens de partout au Québec. Une revue de presse très complète. Et ça, c'est du lundi au vendredi. Un autre rendez-vous. Cette fois, c'est la deuxième saison de cette émission qui était animée avec brio. L'année dernière, par Clotilde. Oui, j'en ai entendu parler. Non, je l'ai surtout entendu animer cette émission. C'est pourquoi je suis assez fébrile. J'ai hâte de casser la glace.
Mais
c'est un très beau défi pour moi.
Ça va bien se passer.
Merci, Clotilde.
Je suis tellement sûre que ça va bien se passer, là.
C'est vraiment une liste exhaustive d'à peu près tout ce qui se passe dans le milieu du handicap.
Oui, c'est ça.
Et par actualité, c'est un tour d'horizon vraiment complet, une source d'information incontournable. Moi-même, quand je travaille chez Ami Télé, souvent, quand on voulait savoir ce qui se passait, on allait faire un tour du côté des paractualités. On savait qu'on allait avoir un résumé de la journée complète.
Bon, alors, je vous engage comme agent. Vous avez tout dit. Les paractualités, c'est un bulletin de nouvelles qui est consacré à l'actualité du handicap partout. On a des nouvelles de partout dans le monde, Montréal, les régions, le Québec au grand complet, des nouvelles de la scène canadienne. On s'intéresse à ce qui se passe aussi sur la scène internationale. Et il y a toujours deux entrevues par jour avec les intervenants, les acteurs de l'actualité du milieu du handicap, comme lundi, le 11 septembre, première de l'émission en ce qui me concerne, Mathieu Francoeur du mouvement FACE et aussi David Demers d'INCA, qui est l'Institut national canadien pour les aveugles.
Oui, ben oui, je connais bien David. Est-ce qu'il vient
de parler?
Ils sont très gentils.
Puis ils parlent.
Oui, c'est
une question,
une
puis ils sont partis.
Est-ce qu'il vient de nous parler des fameuses lunettes eSight, David?
Ben, je vais leur poser la question.
On va leur poser la question.
On va leur en parler certainement. Alors donc, les voies de service du lundi au vendredi pour une revue de presse complète. Je pense que c'est la plus complète
au Québec.
Oui, au Québec. Et les paractualités du lundi au jeudi. J'ai Clotilde en face de moi. Vous pouvez me dire le mot de cambronne, Clotilde?
Oui, mais je vous le dis.
Merci.
Non, il ne faut pas dire merci.
Ah non, c'est vrai. Mais vous n'avez pas dit le vrai mot
cambronne.
Non, c'est vrai. Cambronne.
Ah, merde.
C'est pour ça que je me suis... Là, je ne vous dis pas merci. Je vous dis c'est gentil.
D'accord.
Merci beaucoup à vous deux. Puis je termine, moi, en vous parlant de moi, est-ce que vous me le permettez?
Ben oui. Alors, et vous, Kevin?
Et moi?
Parce que Kevin, quand même, disons-le, on est quand même... drôlement content de vous avoir parmi nous.
Nouvelle émission en plus.
Cool.
Ben voilà, ça m'a fait plaisir de te remplacer le vendredi à l'émission M l'été. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Sylvie, également avec Mathieu.
Chouette, hein?
Et puis également, je serai de retour au micro de Canal M tous les vendredis midi à 11h30 pour une émission de sport. Ça va combiner mes deux passions ou mes deux vocations. On va parler de handicap et de sport. Donc, on va parler nécessairement de sport adapté, de paralympique, mais aussi de la relation particulière qui unit le handicap et le sport. Le sport comme vecteur de changement social sur les plans individuels et collectifs à partir du 15 septembre. Merci à tout le monde. Une belle saison à M l'été dès la semaine prochaine. On a manqué de temps hein, à la fin du dernier bloc. Mais premièrement, j'ai terminé sur une faute, donc je vais me corriger, vous me le permettrez. Pas, effectivement, c'est une belle saison qui nous attend, mais sur les ondes de Canal M et non pas sur les ondes de MLT. MLT, c'est cyclique, hein, c'est seulement l'été, le nom le dit. Donc, je vais terminer en rappelant ceci et également en mentionnant deux autres émissions qui vont également faire partie de la grille horaire, Clotilde.
Mais le national, hein, qui va reprendre, parce que ça, ce sont vraiment des sujets d'intérêt nationaux et il ne faut pas oublier qu'on est écouté aussi à l'extérieur de la province. Alors, il faut aussi qu'on s'intéresse à tout ce qui se passe
d'un
là-bas.
D'un océan à l'autre.
Donc, le national, ce sera le vendredi juste après vous, à midi. Si... Non, attendez. Oui?
Oui, tu sais.
Moi, c'est ça, exactement, ouais. À midi.
Il y a tellement d'émissions. Ben, on a pris les détails sur le site Internet aussi.
Exactement.
Puis, j'ai pas mentionné le titre de l'émission Au Signal, que ça va.
Oui!
Ah, votre émission, ouais, vendredi
signal,
prochain.
Le magazine.
Et qu'on est fébrile. Hein?
Oui, moi, j'ai vraiment très hâte. Je pense que ça va être une très belle saison. Merci à Mathieu pour la mise en onde. Merci également à Sylvie pour la recherche. Puis on vous dit bien à très, très bientôt et profitez bien des dernières journées de l'été.